Voilà, bonjour frères et sœurs. Ça fonctionne ? Je reviens chez moi. Je suis parti de Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 53 ans. Et j'ai commencé mon ministère à Saint-Étienne-du-Rouvray il y a 63 ans. Quand j'ai commencé, nous étions dans une petite baraque en bois. Ça me sert de bavoir maintenant. Nous étions dans une petite baraque en bois, nous avons construit, et l'œuvre de Dieu s'y est faite. Mais me retrouver dans ce local, c'est pour moi vraiment un sujet de joie. Je me réjouis avec vous et je me réjouis avec toi, mon cher frère Yvan, de ce que Dieu vous a béni. Et je crois qu'il continuera de le faire. L'homme que je suis sent bien ici la présence de Dieu. Je l'atteste et je remercie le Seigneur. Que Dieu vous donne encore des bons jours. Rappelez-vous toutefois que quand le Seigneur va venir, il ne prendra pas le bâtiment. Mais il prendra ceux et celles qui sont dans le bâtiment. C'est bien aimé, les chers frères et sœurs. Alléluia. Et nous attendons son retour. Vous avez dit quelque chose là. Nous attendons son retour. Amen. Gloire à Dieu. J'ai à cœur pour ce premier culte et pour le second de vous parler d'une personne que je chéris particulièrement et qui se nomme le Saint-Esprit. J'ai appris à travailler avec le Saint-Esprit et j'entends poursuivre jusqu'au bout. Au fait, peut-être que vous vous demandez quel âge j'ai. Il y a 63 ans qu'il a commencé ici et puis il y a 53 ans qu'il est parti en Bretagne. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous dire mon âge, mais je vais simplement vous dire que je suis de la descendance d'un nommé Caleb. Je suis un arrière-arrière-petit-fils de Caleb. Dieu m'a donné la santé. Amen. Et je vous souhaite encore, à vous qui prenez de l'âge, d'être vaillants pour le Seigneur. Donc nous allons évoquer ce matin cette personne bénie qu'est le Saint-Esprit. Nous faisons une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Je n'ai pas d'heure. Oui, mais. Voilà. Au chapitre 2, et j'aimerais vous lire trois versets. J'ai pris un stabilo et je les ai soulignés. Ce sont tout d'abord les versets 42 et 43. Nous faisons excessivement attention à toutes les paroles de ces deux versets. Elles sont importante. Ils persévéraient, les disciples, les chrétiens. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. La crainte respectueuse. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait, Dieu merci, beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Et puis, au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur qui était avec eux, qui les accompagnait, le Seigneur ajoutait chaque jour, tous les jours, à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Amen. L'Église a besoin plus que jamais d'être formée selon l'enseignement des apôtres, des premiers apôtres. Je me souviens qu'au début du réveil en Normandie, les pionniers annonçaient l'évangile aux quatre angles. Vous connaissez cet évangile, je pense. Jésus-Christ sauve. Et il a sauvé. Et il continue de le faire. Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Il a baptisé. Et il le fait encore. Jésus revient. Jésus sauve. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus guérit. Et Jésus revient. Aujourd'hui, je dis avec beaucoup de sérieux que l'Église en général, et pas uniquement l'Église de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'Église doit avancer. Et pour pouvoir avancer, l'Église a besoin d'être aidée. Quel est donc son appui ? Où va-t-elle trouver assistance ? Quelle est la coopération de l'Église, si ce n'est le Saint-Esprit ? Il est évident que l'Église, en général, va devoir se débarrasser de choses qui l'encombrent, de matériaux de seconde classe, comme les nouvelles méthodes, et toutes les babioles de substitution. L'Église primitive n'a pas commencé ainsi. L'Église primitive a commencé dans la prière. Et le Seigneur a doté les siens de sa présence. Non pas une présence lointaine, mais une présence réelle. Il a doté les siens de sa puissance. Les siens, l'Église, possédaient la puissance de Dieu. Une Église qui avance aujourd'hui, encore faudra-t-il que nous définissions tout à l'heure ce qu'est une Église qui avance, une Église qui avance est dotée du surnaturel. Personnellement, j'ai bénéficié et j'expérimente encore le divin. J'appartiens, je vous l'ai dit, au Seigneur bien sûr, mais aux assemblées de Dieu depuis 63 ans. Et je dois vous dire que j'ai vu, je vois, j'ai touché, je touche le surnaturel. Ma vie, mon service, ont été dotés du surnaturel. Tout d'abord, dans le domaine de la guérison physique. Je suis quelqu'un qui est connu personnellement la guérison. Lorsque je suis venu à l'Évangile, c'était non loin d'ici, à Rouen, j'étais tuberculeux, pulmonaire. Je venais de faire plus de 2 ans et demi de sanatorium. Tuberculeux, contagieux, faisant régulièrement des hémoptysies, c'est-à-dire crachant le sang. Le sanatorium ne pouvait rien pour moi, ne pouvait plus rien pour moi, malgré les antibiotiques à l'époque. J'étais inopérable, donc mes parents sont venus me rechercher. Nous habitions Rouen. Et ce qu'ils savaient, ce que j'ai appris après, c'est que j'étais perdu, médicalement perdu. C'est là que quelqu'un a témoigné à mes parents de l'Évangile. Je suis venu écouter l'Évangile et j'ai été guéri. Est-ce que vous le croyez ? Eh bien, croyez-moi, je ne changerai pas mes poumons avec les vôtres. Parce que ceux-là, ils ont été touchés par les mains de Jésus. En une semaine, preuve médicale à l'appui, j'étais totalement guéri. N'ayant plus de traces sur chaque lobe de mes deux poumons, alors que j'avais des cavernes sur chaque lobe de mes deux poumons, Je n'avais plus de caverne, je n'avais plus trace, je n'avais plus le trace du bacille de Koch, je ne crachais plus le sang, j'étais totalement guéri. C'est Jésus qui vous a guéri? Oui. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Je vais vous raconter, si vous le permettez, quelques guérisons. Ça vous intéresse, ce sont des guérisons qui ont eu lieu dans la région. Et peut-être que quelques-uns, des plus âgés, vont se souvenir de ces faits. Lorsque nous avons ouvert la ville de Darnétal, nous avions un mal chien à ouvrir cette ville. Elle était impénétrable à l'évangile jusqu'au jour où nous avons prié pour un aveugle. Il se nommait Monsieur Vielle. Nous avons prié pour un aveugle de quelques décades d'années de cécité et cet homme a recouvré la vue. Amen. Oui, amen. Parce que c'est à partir de là que l'église de Darnétal a été fondée. L'année qui a suivi, nous avons fait des baptêmes à Rouen et ce n'étaient que des candidats de cet annexe à l'époque de Darnétal. Ensuite, nous sommes allés jusqu'à Charleval. Et là, eh bien, c'était l'évangile prêché en campagne, ce n'était pas facile. Et on m'a dirigé vers une personne qui s'appelait Madame Wittkock. Voyez-vous, j'ai une bonne mémoire. Hein. Et cette femme était paralysée depuis 15 ou 17 ans. Nous avons prié pour elle et elle a été instantanément guérie. Ça a été notre prospectus. Elle est allée dans le village et la réunion suivante, la salle était pleine. Ça, c'est l'Église qui avance. Mais elle n'avance pas n'importe comment. Elle avance avec la puissance de Dieu. Nous sommes allés jusqu'à Gournay-en-Bray. Et là, un homme, M. Boots, peut-être que vous connaissez encore son épouse, tu as connu, était atteint d'une boule à l'estomac cancéreuse. Et lorsque la première fois nous avons prié pour cet homme, il a été instantanément guéri. Amen. Et l'œuvre de Charleval s'est construite sur ce miracle. Je reviens à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a 63 ans de cela, nous étions dans cette baraque en bois quand une chère sœur, Madame Couture, m'a emmené voir une gitane dans une roulotte qui avait été abandonnée de la science et qui avait un cancer de la face. Nous avons prié pour cette femme. Et la nuit suivante, le cancer s'est détaché de sa face. Elle a dû retourner à l'Hôtel Dieu. On y voyait les deux mâchoires, le trou béant que laissait le cancer. Et puis des chairs ont poussé. 15 jours après, notre ami était totalement guéri. L'Évangile a avancé avec cela. L'Évangile a avancé aussi avec une Madame Varin. Et vous, je me souviens bien des brebis, hein. Le berger connaît ses brebis. Hein. Je me souviens de Madame Varin, qui elle aussi avait un cancer à la face. Et je la vois le dimanche matin, c'était un dimanche de Pentecôte. Et cette chère sœur priait et disait, « Seigneur, c'est notre jour anniversaire, c'est la Pentecôte. Tu pourrais en ce jour-là, Seigneur, me guérir. » Quelle prière! Puissiez-vous avoir de telles prières? Puissions-nous avoir de telles prières? Quand elle a relevé la tête, son cancer était dans ses mains. Nous l'avons vu, c'était en pleine salle. Oui, C'est ça l'Église qui avance. Le moteur de l'Église, le gouvernail de l'Église, c'est le Saint-Esprit. L'Église qui ne cherche plus le Saint-Esprit, l'Église qui innove pour suppléer le Saint-Esprit, ne verra pas et ne verra plus de tels effets. Nous sommes de la Pentecôte et nous devons rester dans la Pentecôte. Nous sommes nés et nous avons le privilège de connaître le Saint-Esprit. Nous devons l'honorer, nous devons le rechercher, nous devons en être baptisés. Plaise à Dieu que vous le soyez. Alléluia. Les uns et les autres. La tendance aujourd'hui dans l'Église en général est de remplacer l'essentiel. La parole, c'est l'essentiel. L'esprit, c'est l'essentiel. Par des outils de seconde zone. Je dis attention de ne pas dévier de l'enseignement des premiers apôtres. Si les premiers apôtres étaient au milieu de l'Église aujourd'hui, seraient-ils à l'aise ? Un dernier fait, avant de parler vraiment du Saint-Esprit. Je continue mon ministère, comme le frère Yvan l'a dit, mon collègue. Je continue mon ministère au sein de la ZEP, qui m'a nommé directeur des œuvres sociales en Inde, au Myanmar et au Sri Lanka. Et nous œuvrons, j'œuvre particulièrement en Inde, pays où sévit la persécution. Et croyez-moi, la persécution, ce n'est pas un mot. Ce sont des faits qui se produisent tous les jours. Nous travaillons discrètement auprès des enfants démunis, ceux qu'on nomme les intouchables, la dernière caste, les enfants les plus vulnérables, les sans force, sans instruction. Les chancelants, les attaquables. Moi, je les nomme les déshérités. Et force de constater que dans un terrain de persécution, l'Évangile progresse, l'Évangile avance. À l'heure actuelle, nous soutenons 30 maisons, 1050 enfants, sont parrainés. Et le plus extraordinaire, c'est que la plupart des enfants se convertissent. Les enfants se convertissent et deviennent des prospectus vivants auprès des leurs et de leurs proches. Chaque semaine, des centaines de personnes se font baptiser, et ce depuis des années. Tant et si bien que dans ce pays persécuté, aujourd'hui, on compte parmi les gypsies plus de 40 000 membres. Gloire à Dieu, dans un pays persécuté, où l'on n'a pas le droit d'annoncer l'Évangile. Il y a maintenant près de 400 pasteurs. La Bible a été traduite. Ils ont la parole de Dieu. Il n'y a pas un terrain plus hostile dû à la persécution, mais le miracle est quotidien. J'ai vu beaucoup de choses dans mon ministère, mais pas, j'en ai pas vu autant que j'ai pu le voir en Inde. La porte du ciel est ouverte, c'est ce que disait le leader qui maintenant est auprès du Seigneur, Salomon Ventekatal. La porte du ciel est ouverte, la porte de l'enfer est fermée. Amen. Et oui, une église qui avance ouvre les portes, les bonnes portes, et elle ferme celles qui doivent être fermées. Et ça ne se fait pas avec les petits muscles que l'on a, Ça ne peut se faire qu'avec la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. Nous avons donc une arme, frères et sœurs, invincible. L'Église a une arme invincible. Vous avez une arme invincible. Et vous ne tirez jamais à blanc avec cette arme. Quand on tire avec cette arme, croyez-moi, on obtient toujours le but. Cette arme se nomme le Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a contribué à l'avancement du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. J'ai bien dit, et je répète, que notre Seigneur Jésus a contribué à l'avancement du royaume de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et si Jésus a fait ainsi, nous devons aussi agir de même. Les chrétiens aujourd'hui doivent être remplis du Saint-Esprit en vue de l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Je lis quelques textes que vous connaissez. Après qu'il eut souffert, Jésus, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, dit-il, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs, une guerre cosmique fait rage de tout temps, et aujourd'hui encore, entre le royaume de Dieu et celui de Satan. J'espère que vous en êtes conscients. L'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le royaume de Dieu avance en puissance, et ce, en dépit de ceux qui essaient de l'en empêcher. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, dit Jésus, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est-à-dire ceux qui sont équipés, ceux qui sont armés, ceux qui ont avec eux le Saint-Esprit, ce sont eux qui s'emparent du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous nous attarderons, et ce matin nous nous attarderons, à répondre à cet impératif. Qu'est-ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu? Je vais rester le plus biblique possible, et je voudrais vous citer ce fait. Ne cherchez pas, je vous le cite, c'est dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22, il est dit qu'on amena à Jésus un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Moi, je dis alléluia. Vous auriez voulu être là? Mais nous sommes là, nous sommes là. Les choses qui se sont faites, ce sont des choses qui se font encore. Amen. Toute la foule étonnée disait: « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il ? Et si moi, dit Jésus, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais écoutez bien, et puis au besoin, crayonnez ce qui suit. Jésus dit : mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce qui contribue à l'avancement du royaume de Dieu ? Je crois que le passage de l'évangile de Matthieu est une parfaite illustration de ce que Jésus compte faire pour faire avancer le royaume de Dieu. Jésus dit, et c'est important ce que Jésus dit que sa puissance émane du Saint-Esprit. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et il dit : c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Allez donc par vos propres forces chasser un démon. Vous n'y arriverez pas. Mais ayant reçu l'autorité par le Seigneur, ayant avec soi le Saint-Esprit, ça devient possible. C'est possible. Alléluia. Lors de son baptême d'eau, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Et ce jour-là, il a été revêtu de la puissance nécessaire en vue du ministère. Tout ce que Jésus a accompli durant son ministère, il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Non pas parce qu'il était le Fils de Dieu, il était sur la terre le Fils de l'homme, mais il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit là d'une vérité importante, car Jésus nous montre comment servir Dieu. L'Église qui avance, l'Église qui gagne du terrain, le fait par la puissance du Saint-Esprit. Non pas par la puissance d'un homme, si bien soit-il, mais par la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Béni soit le Seigneur. Maintenant, humainement parlant, j'insiste pour que vous compreniez bien, chers frères et sœurs, qu'il est impossible, à vue humaine, de triompher du pouvoir de Satan. Nous sommes dans le siècle du mal, hein ? Nous sommes dans le siècle des ténèbres. Mais comme Jésus, nous pouvons nous aussi contribuer à l'avancement du royaume de Dieu par la force du Saint-Esprit. Jésus a promis d'accorder la même puissance du Saint-Esprit à ses disciples. Attendez, leur a-t-il dit, jusqu'à ce que. C'était indispensable pour faire avancer le royaume de Dieu. Conformément à la promesse de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été remplis de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, le jour de la Pentecôte. La promesse concernant le Saint-Esprit est pour nous encore aujourd'hui, de même qu'elle était pour les premiers disciples. Tant et si bien que nous continuons de lutter contre les puissances du diable. Beaucoup sont opprimés et esclaves du péché. Le seul espoir au monde est une Église investie de la puissance de l'Esprit, capable de triompher de Satan. Il faut que ceux qui viennent au milieu de nous et qui sont possédés soient délivrés. Il faut que ceux qui sont malades et qui viennent au milieu de nous soient guéris. Il faut que ceux qui viennent au milieu de nous et qui sont pécheurs puissent tomber sur leur face, pleurer sur leurs péchés et confesser que Jésus est le Sauveur. Ça, c'est une Église qui avance. C'est une Église qui avance. Et c'est une Église qui sera bien établie. C'est une Église qui restera forte. Croyons à la promesse de Jésus, mes frères et sœurs, et demandons-lui de nous remplir de l'Esprit. Voulez-vous que l'Église locale avance? Elle va le faire comment? Eh bien, elle va le faire en étant remplie du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous proclamons l'Évangile avec assurance. L'Évangile n'est pas lettre morte. L'Évangile est une puissance de Dieu. Dieu a toujours œuvré et œuvrera à travers nous afin de libérer les captifs avec la puissance du Saint-Esprit. Et ainsi, son royaume avancera. Une Église qui avance, c'est une Église vivante. Je ne peux pas vous dire que vous n'êtes pas vivant, hein, vous êtes vraiment vivant. Mais est-ce que nous sommes totalement vivants? Vous savez, je visite beaucoup d'églises, et pas qu'en France. Et je déplore que, dans certains endroits, ils ont perdu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit perdu est un drame. Vous m'entendez? Si vous veniez à perdre le Saint-Esprit, ce serait un drame. Un drame. Nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette nouvelle Pentecôte. Nous avons besoin de ces eaux divines, de ces eaux fraîches. Pendant que j'étudiais sur, disons, ce sujet qui me tient à cœur, je pensais au roi Saül. En fait, vous les chrétiens, vous connaissez l'histoire du roi Saül. Vous savez pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a perdu l'onction. S'il avait gardé l'onction, ça se serait passé autrement. Mais il est mort parce qu'il a perdu l'onction. Si nous voulons un service béni, et nous voulons un service béni, amen. Si nous voulons des résultats, et nous voulons des résultats, si nous voulons des manifestations de la grâce de Dieu, si nous voulons de l'enthousiasme dans nos réunions, si nous voulons l'approbation divine, il nous faut rechercher, il nous faut demander le Saint-Esprit. Amen. Rien ne peut remplacer le Saint-Esprit. Et je terminerai, et continuerai pour le prochain culte, mais je terminerai en disant ceci. Frères et sœurs, qui n'êtes pas baptisés, recherchez le baptême du Saint-Esprit. Vous qui êtes baptisés, recherchez une onction fraîche. Parlez en langue. Parlez en langue. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas à son voisin. Celui qui parle en langue ne parle pas pour les autres. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Il parle à Dieu. Quand je parle en langue, je parle à Dieu. Je dis des mystères, mais ça me fait du bien, ça me fortifie, ça me donne tout ce dont j'ai besoin pour mon témoignage et pour mon service. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis heureux d'appartenir à l'église de Pentecôte. Amen. Je suis heureux d'appartenir au mouvement de l'Esprit. Amen. Et que Dieu fasse que nous soyons toujours et continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin de nous faire la grâce, Seigneur, d'être visités par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné de faire une belle expérience avec le Saint-Esprit. Et merci de ce que tu tiens à ce que cette expérience perdure. Seigneur, Seigneur, merci, merci parce que, Seigneur, tu couronnes l'Église de succès avec le Saint-Esprit. Tu donnes à l'Église d'avancer envers et contre tout avec le Saint-Esprit. Oui, avec le Saint-Esprit, l'Église renverse les murailles. Amen. L'Église est triomphe des ténèbres. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, l'Église va de l'avant. En attendant que tu la recueilles auprès de toi, Seigneur, tu permettras que nous restions jusqu'au bout une église vivante, une église puissante, Seigneur, où au milieu d'elle, tu agis, Seigneur, pour les pécheurs, pour les malades, pour les désespérés, pour ceux, Seigneur, qui n'ont aucun espoir. Oh Seigneur, envoie la puissance, alléluia, envoie ta puissance, Seigneur, amen, amen, amen. Avant que nos amis chantent, j'aimerais que le frère qui s'occupe de la vidéo mette ici Hébreux 2.4, s'il vous plaît, 2.4. Et nous allons le lire ensemble. C'est bon ? Ensemble, on lit ensemble. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. On répète. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. À mon réveil ce matin, c'est le texte que Dieu m'a donné. Je le partage avec vous. Que Dieu vous bénisse.